EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans la table avec Annabelle. Heureuse de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode. Et puis si vous avez été avec nous lundi, eh bien vous avez appris la grande et la bonne nouvelle. La table ne s'est pas agrandie, mais les convives se sont ajoutés. Sandra, encore bienvenue à toi dans
Merci.
L'équipe. On est heureuse d'être avec toi et tu es encore là. Après cette
c'est bon signe.
Écoutez.
On verra si à la fin de la semaine.
Annabelle, on est mieux d'être gentille. Nous.
Non, mais on est heureuse, Sandra, d'être avec toi, que tu sois avec nous aussi.
Très heureuse.
Et, voilà. Donc que tu bénis la francophonie par ta voix, par la louange, et puis on croit que tu es une bénédiction, même si tu ne chantes pas.
Amen.
C'est un compliment ou pas du
Oui,
coup.
Absolument.
Je me dis, ça sonne un peu mal ce que je viens de dire. Non, on s'aime bien, d'accord. On s'aime bien, on a des très bons rapports, c'était pas méchant.
Non, au contraire.
Et non, on est très contente de que tu sois là. Donc c'est parti, tu continues?
Écoute, je reste encore là pour un petit bout.
Ah bon, c'est bon.
Vous avez passé le test.
Ah ouais, tu nous l'as fait comme ça. Donc aujourd'hui, les filles, on va parler de disciples. Es-tu vraiment un disciple? Et parce que aujourd'hui, je veux dire, il y a beaucoup de chrétiens. Et puis on parle surtout. On va balancer, hein. Mais souvent en Europe, on va parler des chrétiens nord-américains. On va dire ah ils sont un petit peu
plus relax.
Comment on dit washi washi, c'est ça. Et du coup, c'est quand même moi ça me bénit. C'est un message qui revient beaucoup, je trouve, de plus en plus sur le fait d'être un disciple et que Jésus soit non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Et je trouve que c'est un message qui revient quand même et qu'on entend de plus en plus et qui nous met face à nos responsabilités en tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne. Alors aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Après avoir parlé des grands rêves et des nouveaux projets, eh bien c'est aussi important de se dire dans ces grands rêves, ces nouveaux projets, est-ce que je vais marcher dedans comme une vraie disciple de Jésus-Christ? Et nous avons une invitée qui c'est la première fois qu'on la reçoit dans la table avec Annabelle et on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Sarah Marvan. Mmh. Bonjour et bienvenue à toi à distance aujourd'hui, mais on est très heureuse de t'accueillir. Donc on a deux lyonnaises. Je pense que tu n'es pas lyonnaise de naissance, toi, Sarah, mais
non. Je suis alsacienne de naissance. Ouais. Oulala, mon père me tâcherait sur les doigts, mais de cœur, je suis lyonnaise maintenant. Mais c'est super de naissance. Eh oui.
C'est bon, tu l'as adoptée.
Oui, parce que vu que je vis plus à Lyon, j'ai plus rien à dire. Alors.
D'accord. Donc Sarah, heureuse de t'accueillir. Tu es avec ton mari. Vous êtes pasteur donc à Lyon d'une église SOS Lyon, c'est ça. Et
c'est ça,
je l'ai bien dit. Hein. Et parce que je suis pas très forte dans ce genre de choses. Donc n'hésite pas à me corriger. Et donc, on est heureuse de t'accueillir et donc de parler de ce sujet. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et puis toi, un message que tu portes, c'est de vivre pour l'essentiel et de pas se disperser. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses aujourd'hui. On a tellement d'options et quelquefois on a l'impression que la vie chrétienne, c'est oui, fais ce que tu veux, tu connais Jésus, t'as répondu, t'as levé la main une fois à l'appel, puis sinon, vis ta vie un petit peu comme tu veux, et puis de temps en temps, fais quelque chose de bien. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de plus. Dieu nous a invités à une relation supérieure en tant que disciple. Et comme je disais, toi, Sarah, c'est vraiment un message qui te tient à cœur. Et est-ce que c'est venu, est-ce que t'as toujours porté ça, ou c'est quelque chose au fil du temps qui s'est développé dans ton cœur?
Non, je crois que j'ai toujours porté ça. Je suis quelqu'un de très entier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comme on dit, une tout ou rien, noir ou blanc. Okay. Le gris n'est pas une couleur dans ma vie. Voilà. Donc je pense avoir toujours été entière dans ma relation avec Dieu. Bien sûr, elle a évolué. Hein, on est tous les saisons de nos vies nous permettent d'évoluer, mais j'ai toujours eu un cœur brûlant pour vivre pour lui et pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Mmh. Et pour ça, il nous faut être de véritables disciples. Donc, j'ai envie de dire, il était temps que nous revenions enfin à l'essentiel. Mmh.
Mmh. Et toi, tu dirais, c'est quoi aujourd'hui être un disciple, tu vois, parce que quelquefois, on va lire la Bible, on dit, ouais, ok, bon, eux, c'était des disciples. Mais de nos jours, ça ressemble à quoi dans notre quotidien aujourd'hui? C'est quoi être un disciple de façon peut-être plus concrète?
Bah, déjà, la définition du mot disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc, tu l'as bien dit en introduction, Annabelle, tout à l'heure, tu disais qu'il était important que Jésus ne soit pas non seulement un sauveur, et je crois que le véritable disciple, c'est celui déjà qui a compris ça. C'est que on aime tous avoir Jésus comme sauveur, n'est-ce pas? Jésus a changé nos vies, il a lavé nos péchés, et ce sauveur merveilleux, on le chérit. Mais Jésus doit être amené et doit surtout devenir le Seigneur de nos vies. Parce que c'est seulement à partir du moment où il est le Seigneur dans nos vies qu'il peut réellement, en fait, accomplir en nous et à travers nous sa destinée. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre des grands projets ou d'accomplir de beaux projets ou quels qu'ils soient, si ce n'est ceux que lui nous confie. Et j'aime voir notre cœur comme le trône, en fait. Et sur ce trône, il n'y a la place pour une seule personne. Je ne crois pas qu'on puisse être deux sur le trône de notre cœur. Soit Christ règne sur tout, soit il ne règne pas du tout. Mmh. Et le véritable disciple va choisir et faire ce choix personnel de dire, après avoir connu Jésus comme sauveur, ce qui est capital, et il nous faut passer par là, je crois que naturellement notre amour pour Jésus nous emmène à le laisser devenir Seigneur de tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir de là, le véritable disciple n'existe plus, si je puis me permettre. Il ne doit plus exister. Le véritable disciple, c'est celui qui laisse Christ briller, Christ transpirer de lui-même et dans tous les domaines de sa vie.
Et toi, Sandra, parce que... Écoute, on va apprendre à mieux te connaître. Donc, sache que c'est toi qui vas avoir toutes les questions.
C'est moi qui suis au test.
Nous sommes à tes pieds, Sandra, aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as senti que tu es devenue une disciple parce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Et du coup, quelquefois, c'est même plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué ouais, quand tu as grandi dans une famille chrétienne parce que t'es comme dans une vie chrétienne. Et du coup, tu te dis, ouais, je suis une bonne petite fille, ou j'ai fait tout ce qu'il fallait, ou j'ai connu Jésus, etc. Mais est-ce que tu as senti à un moment donné que tu as eu un basculement dans ta vie?
Oui, je dirais que même que j'ai eu trois phases. Il y a la phase où j'étais chrétienne parce que mes parents allaient à l'église. Donc, en fait, j'ai jamais eu un avant et un après. J'ai toujours appris à prier, à lire ma Bible et tout ça. Donc, ça faisait partie de ma vie. Mais après, quand j'ai décidé de faire de Jésus mon sauveur à moi et non plus juste Dieu, le Dieu de mes parents, ça a été la première étape. Mais encore une fois, je pense pas qu'à ce moment-là, maintenant avec le recul, j'étais réellement une disciple, parce que c'est pas parce que je croyais en Dieu que j'étais officiellement, que j'étais du coup devenue disciple. Je dirais que c'est même plus tard où vraiment là, j'ai compris que, ok Seigneur, je veux pas juste croire en toi, mais je veux te suivre et je veux en fait que ma vie entière puisse te glorifier. Et je pense que c'est là qu'est venu le déclic. Quand à partir de ce moment-là, j'ai eu soif de lire la parole, de prier plus, de mettre ma vie en règle aussi, puis de poser des actions concrètes dans ma vie pour que ce soit aligné avec ce que Dieu voulait pour moi et non plus juste dire, ben, je suis chrétienne, je crois en Dieu et me satisfaire juste de ça.
T'as eu un déclic? Il s'est passé quelque chose ou ça a été...
Non, je pense que ça a été probablement une réunion où je suis sortie de là, dans un culte, puis je pense que c'était une réunion de jeunesse où je suis sortie de là, et puis là j'étais ok, non, je pense que ma vie elle doit faire un 360, puis elle doit changer. Donc il y a eu, dans un rassemblement de jeunesse, j'ai donné ma vie à Jésus, puis ensuite plus tard, plus âgée, là, c'était dans ma vingtaine. Là, je me suis dit, ok, non, Seigneur, maintenant, je change.
T'étais déjà peut-être active dans ton église et tout ça.
Je servais dans mon église, ouais. Mais je lisais pas forcément ma Bible, tu vois. J'avais
pas de discipline. T'étais pas dans, rassure-moi, t'étais pas dans le ministère.
Non, j'étais pas encore dans le ministère.
Oui, c'est bon. Mais ceci dit, ça m'amène à une question. Et Sarah, j'aimerais bien savoir toi ce que t'en penses. Mais tu sais, quelquefois, on se demande comment est-ce que je peux être un disciple, tu sais, genre un niveau élevé, tu vois, ceinture noire, si je suis pas, non mais si je suis pas dans le ministère, si j'ai un travail dans le séculier, si je suis une maman à la maison, etc. Et tu sais, quelquefois j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un amalgame entre le ministère, le fait d'être actif dans le ministère et le fait d'être un disciple. Et je crois qu'il y a des gens quelquefois ils se disqualifient parce que c'est comme ça, c'est une catégorie pour le ministère. Je sais pas si toi t'as l'occasion peut-être de voir ce genre de choses aussi. Ou si c'est juste moi.
Non, malheureusement, c'est quelque chose que je vois aussi. Mais ce serait tellement discriminatoire de ne pouvoir être qu'un disciple si on était dans le ministère. Je suis moi-même avant tout décoratrice d'intérieur dans la vie. Je crois que nous sommes appelés à être des disciples là où Jésus nous a placés. Puisque le véritable disciple est celui qui va faire des disciples. C'est ça la mission du disciple, hein, c'est de se multiplier. On a un Dieu de la multiplication, on n'a pas un Dieu qui additionne. Et pour cela, il a besoin de tout le monde. Il a besoin du carrossier, il a besoin du boulanger, il a besoin de l'évangéliste, il a besoin de la coiffeuse, il a besoin du pasteur. Avant toute chose, il faut considérer, nous rappeler que nous sommes enfants. Enfants de Dieu et de par là, co-héritiers avec Christ. Et lorsque nous devenons co-héritiers avec Christ, nous vivons la réalité de ce qu'est être rempli du Saint-Esprit veut dire. Et parce que je suis rempli du Saint-Esprit, peu importe ce que je suis dans la vie, je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, j'ai toutes les capacités d'amener l'Évangile là où Jésus me place, de guérir les malades en son nom, de chasser les démons en son nom et de faire avancer son royaume comme il nous l'a demandé. Ça, c'est ce que je crois profondément et je crois que si chacun se saisit de son mandat, et j'aimerais encourager tous ceux et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui à vous saisir de ce mandat parce que vous avez reçu absolument tout ce dont vous avez besoin. Christ vit en vous. N'oubliez pas que ce n'est plus vous qui vivez, c'est la puissance de son esprit qui est en vous et par lui, nous sommes capables de tout. Un enfant de Dieu est inarrêtable. Lorsqu'il prend conscience de la puissance qui vit en lui. Aujourd'hui, je crois que l'Église doit se réveiller, ou peut-être les chrétiens, peut-être aujourd'hui, doivent et sont en train de se réveiller, de se dire, ben, en fait, c'est en moi, je l'ai reçu. Ça ne dépend pas de mon pasteur, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Nous sommes tous appelés à être des pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'Église, parce que c'est là notre mission, c'est dans ce monde.
Moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que tu sais, tu parlais de le ministère ou femme, mais en fait, le disciple, c'est nous sommes tous appelés à être des disciples et c'est peu importe ce qu'on fait, il faut être. Souvent, on va voir des ministères où et moi, tu sais, des fois, on va dire des fois les nouveaux chrétiens, ils se convertissent, ils font de Jésus leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Mais le piège aussi, c'est quand on avance dans la foi et on est un peu sur le pilote automatique, tu vois. On va à l'église, on fait une vie de disciple, mais notre vie de disciple doit être en crescendo. Je trouve que je devrais être un meilleur disciple. Plus j'avance dans la vie, je devrais être une meilleure disciple. Et c'est qu'est-ce que c'est un disciple pour moi? C'est être comme Christ, comme Jésus. Et la première étape, ben, comment Jésus avait été avec son Père, hein? Jésus était en relation avec son Père. Être comme Christ, c'est être en relation avec lui. Mais après ça, quand je méditais sur le rôle du disciple, c'était de voir Jésus. Et comme tu le dis, Sarah, comment il était avec les gens autour de lui. Pour moi, un vrai disciple, c'est dans le qui je suis. Comment je traite les gens autour de moi? Lui, il y avait ses 12 qui a enseigné, qui a formé pour la multiplication, pour que l'Église puisse naître et grandir après qu'il est parti, et ainsi de suite. Et après ça, comment il était la bonne nouvelle partout? Il prêchait, il faisait des miracles. Et ça, c'est à notre portée, pardon. Et c'est ce que tu dis, Sarah, c'est qu'avec Christ, maintenant, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Vous aurez le Saint-Esprit qui est tous les jours avec nous. Donc, nous avons en nous, cette force-là, c'est de devenir des disciples comme Christ pour accomplir ce qu'il faisait. Et la Bible nous dit que nous allons faire des choses encore plus grandes que lui. Donc, la mission elle est grande, mais moi, je trouve que ça part du être. Je trouve que dans la société, avec les réseaux, avec tout ça, on regarde et on voit des choses, mais c'est comme la pointe de l'iceberg. En fait, comme chrétien, on voit un iceberg, mais c'est en dessous que ça se passe. Et des fois, on veut faire pour paraître, ou on fait, on va à l'église, on paraît, mais le vrai disciple, il bâtit ses racines ou il fait son iceberg en dessous de l'eau, donc personne le voit, mais c'est quand tu es le cœur du disciple, que tu es en relation avec lui, en relation avec le Père, que là, ben là, tu as tout ce qu'il faut pour aller multiplier et justement faire des disciples autour de nous, et c'est notre appel. Mais c'est pas juste un style de vie. Faut que ça soit ancré, faut que ça soit ta valeur profonde de vouloir être un disciple.
Et c'est un choix, en fait, parce que Jésus dit si quelqu'un veut être mon disciple. Donc, en fait, c'est, bah, si tu le veux, t'es pas obligé. C'est le meilleur choix, on s'entend. Mais si tu veux, ça veut dire que t'as une volonté, ta volonté intervient dans ça. C'est pas, je rencontre Jésus, je deviens un disciple. Si tu veux être un disciple, bah voilà, il y a des démarches que tu renonces à toi-même, que tu te charges de ta croix et que tu me suives.
Ouais.
Mais si tu veux être un disciple, et c'est une invitation. Et c'est peut-être là où quelquefois on manque le coche, on se dit, bon, bah, j'ai rencontré Jésus, les choses vont se faire. Mais en fait, on a une décision à prendre. Est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que je suis prêt à renoncer à moi-même?
Et j'irai plus loin parce que dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, il y a ce choix-là de porter sa croix, mais il y a la notion d'aimer autour de nous de façon inconditionnelle, d'aimer les gens, d'aimer, et pas juste d'être, comme je dis, de faire la chrétienté sur un pilote, puis de faire des règles. Il faut que ça soit vraiment l'amour de Dieu qui nous pousse et qu'on va nourrir dans cette relation de disciples.
Oui, et un disciple, c'est aussi celui qui cherche le royaume de Dieu en premier. Parce qu'on est justement dans une société où on se cherche nous en premier.
Oui, tout à fait.
Mais toi, tu l'as dit, Annabelle, en parlant de renoncer à soi-même. Et il y a un point dans la vie où si on n'arrive pas à renoncer à nous-mêmes, si on ne se place pas comme Jésus et qu'on dise que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on doit demander à Dieu la grâce d'avoir encore un cœur pour lui. Un cœur qui le traîne. Et on est dans une société où la notion de disciple a été quand même biaisée par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où on cherche plus à s'afficher, à montrer. Dès que j'ai prié pour une personne, il faut absolument que tout le monde le sache. Et on n'a plus, comme tu disais Stéphanie, ce cœur à cœur avec Dieu. Les disciples dans la Bible, on voyait que Jésus enseignait les disciples et les disciples agissaient. Et aujourd'hui, si quelqu'un agit sans avoir un enseignement préalable de Jésus, il faut que cette personne se pose la question, il est vraiment mon maître? Est-ce que j'entends les choses que Dieu me dit avant de faire? Parce que Jésus a dit, mais je vois mon Père faire et je reproduis. Donc la vie d'un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus, il doit pouvoir voir le Père faire, il doit pouvoir entendre le Père dire, et c'est ça qu'il va reproduire dans sa journée. Donc si tu n'as pas une vraie relation avec Dieu, si tu ne lis pas la Bible, va dans la présence de Dieu et dis, fais de moi un disciple, fais de moi un témoin, fais de moi quelqu'un qui craint Dieu, fais de moi quelqu'un qui marche par l'Esprit. Et c'est en cela, Stéphanie, que je te rejoins, parce que marcher par l'Esprit, tu vas voir que ta chair, tu vas plus juste être à l'aise dans les désirs de la chair. Il y a des choses que le mensonge, ça va te déranger. Tu vois, la colère va te déranger. Donc, si tu vois dans ta vie qu'il y a des choses qui ne te dérangent pas, pourtant dans la parole de Dieu, c'est écrit de façon claire que ce sont des péchés ou ce sont des œuvres de la chair. Mais dans ce cas, pareil, va dans la présence de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je veux être ce disciple. Je veux faire ta volonté. Je veux t'entendre avant de parler. Je veux te voir faire avant de faire. Et quelquefois, on ne réalise pas que c'est possible. Parce que justement, on nous a pas appris la vie de disciple. On a vu tel faire à gauche, à droite. Et on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire si on est chrétien. On n'a pas appris cette vie-là. Donc, on ne réalise pas qu'on peut vraiment rester dans la présence de Dieu. Et il parle et tu fais ce qu'il a dit. Et il te donne une idée. Je sais pas, et tu la mets en pratique, on ne le réalise pas, mais c'est ça un vrai disciple.
Et comment, Sarah, je voulais aussi te demander, c'est quoi les bonnes habitudes qu'on peut mettre en place, qu'on peut adopter au quotidien pour devenir ou rester ce disciple? Je pense qu'Aurélie, tu as quand même donné une fondation, c'est la parole de Dieu, c'est certain, c'est d'avoir une relation vivante avec la parole parole de Dieu et on n'aura jamais, on le dira jamais assez. Revenons à la parole, même si vous écoutez les émissions, vous pouvez pas juste nous écouter. C'est totalement incomplet. Nous sommes imparfaites. Donc revenez à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous vous en conjurons, nous vous en supplions. Mais Sarah, quelles sont les habitudes qu'on peut développer ou mettre en place?
Moi, je crois que le véritable disciple doit entrer pleinement dans la mission que Christ nous a confiée. Jésus, avant de repartir, va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je crois que lorsqu'on entre pleinement dans cette mission pour laquelle il nous a équipés, encore une fois, il nous a pas laissés orphelins, Et ça doit enlever aussi tellement de pression, et j'aimerais encourager tous ceux qui peut-être se disent mais c'est pas possible, mais si, c'est possible, parce que ça ne dépend pas de toi, mon ami, ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas ce que tu peux faire pour lui, c'est ce que lui peut faire à travers toi, et ça change tout. Et lorsque Jésus va donner ses paroles, en fait il va les donner comme si moi j'étais aujourd'hui sur mon lit de mort et que je laissais quelques paroles avant de partir à mes enfants. En fait, c'est vraiment dans ce contexte-là, un peu comme un testament, que Jésus va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et je crois que la meilleure habitude que le disciple doit avoir, c'est de pouvoir être en communion et en relation constante avec des inconvertis. Il n'y a rien de plus sain, S-A-I-N, de bon, de meilleur, que de toujours être connecté à la réalité. Je crois que l'Église se perd lorsqu'elle quitte ce cadre-là. Jésus ne nous a rien demandé d'autre. Il nous a laissé avec ce testament, allez et faites. C'était un ordre. Il ne nous a rien demandé d'autre. Il nous a pas dit allez de conférence en conférence. Il ne nous a même pas dit allez prier. Il ne nous a même pas dit allez et louer. Il ne nous a rien dit tout ça. Il nous a dit allez. Est faite. Et je crois que ça, c'est une clé pour une vie palpitante, en tout cas, si j'ose témoigner de ce que moi je vis, c'est de toujours être en pleine conscience de ce que mon voisin vit, de ce que ma voisine vit, de ce que celui que je croise dans la rue tous les jours vit, traverse. Parce qu'en fait, c'est en nous intéressant au monde que nous allons ressentir le cœur du Père. La Bible nous dit que le cœur de Dieu ne bat que pour voir tout homme être sauvé. C'est son seul but. Et tout ce qu'il fait, il va le faire pour voir le salut prendre place. Il veut que tout homme soit sauvé. Et quand un disciple travaille pleinement à ça, alors je crois qu'il est en pleine santé. Et j'ai un exemple que j'aime donner, si vous me permettez, si vous avez quelques minutes pour ça. Vous avez quelques minutes pour ça. C'est vraiment cet exemple de la mer de Galilée et de la mer morte. Pour ceux qui ont l'opportunité d'aller en Israël, j'ai eu la joie de pouvoir m'y rendre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces deux mers ont la même source. Pourtant, dans une, il y a la vie, il y a du poisson, il y a des gens qui pêchent, on se baigne. J'ai même fait de la bouée tractée sur la mer de Galilée. Et dans l'autre, il n'y a rien. Il n'y a que du sel et il n'y a que un endroit où l'on flotte. C'est-à-dire que c'est agréable. 3 minutes et après, il faut vite sortir. Et en fait, si je peux me permettre, la comparaison, c'est exactement la même avec un chrétien qui peut-être ne vit pas en tant que disciple. Pour être un disciple véritable, il te faut toujours avoir, comme la mer de Galilée, une entrée et une sortie. La mer de Galilée a une entrée, les deux ont la même source, c'est le Jourdain. Et ce Jourdain va traverser la mer de Galilée, il va continuer et il va descendre jusqu'à la mer morte. Mais dans la mer morte, il n'y a pas de sortie. Et je crois que c'est l'image même des enfants de Dieu lorsqu'ils restent entre eux. La mer morte, pour moi, c'est l'image des chrétiens qui restent entre eux. Ils finissent finalement par accumuler tout le sel qu'ils sont, puisque nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas ? Et finalement, ce sel, tous ensemble, mis ensemble et restant ensemble, devient imbuvable. On ne peut pas ni mettre les yeux sous l'eau, ni faire quoi que ce soit dans la mer morte, puisque trop de sel brûle la langue et trop de lumière brûle les yeux. Nous ne sommes pas appelés pour rester entre nous. Nous sommes appelés pour être toujours une source qui reçoit de Christ et qui ramène et qui renvoie dans ce monde, puisqu'il n'y a que comme ça qu'en fait,
nous pouvons réellement être en bonne santé. Et c'est ce que Jésus nous a appelé à être, des pêcheurs d'hommes. Et tant que notre cœur et notre vie est destinée et sert à finalement sauver et voir des hommes être sauvés, honnêtement, vous n'aurez déjà ni le temps de vous soucier de ce que votre frère ou votre sœur a ou n'a pas. Vous ne pourrez pas non plus, vous n'aurez pas le temps pour ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde mon immeuble qui fait 9 étages, quand je regarde au nombre de familles qui se trouvent autour de moi, j'ai pas le temps de critiquer, j'ai pas le temps d'être éblouie parce que Sandra aurait et que moi j'ai pas le temps. J'essaye d'être une lumière, une petite lumière là où Dieu me place, et le sel pour amener du goût là où il me fait grâce de pouvoir le représenter. Et je crois que ça, c'est une clé essentielle pour être un véritable disciple, c'est de toujours avoir une entrée, de recevoir, mais surtout ne jamais ce qu'on a reçu, c'est pour le redonner.
Amen. Et c'est tellement important parce que c'est tellement vrai que c'est dans notre quotidien, à tous les jours, en fait, on est appelé à être un disciple et à partager. Des fois, on pense, comme tu dis, d'une conférence ou on est appelé ou à l'église. Et juste, c'est beaucoup moins charmant que l'anecdote de Sarah. C'est pas la mère morte, mais à Sainte-Julie, à Boucherville, au Québec, je m'entraîne dans un gym. Et tu sais, je me disais, je voyageais beaucoup et quand j'étais allée m'entraîner, ben j'y allais assez incognito. Tu vois, personne savait qui j'étais, puis je paraissais pas. Et le disciple en moi était plutôt... tranquillou, là, tu vois. Et puis, finalement, quand je suis allée m'entraîner, il y a quelqu'un qui est rentré et dit, ah, pasteur, c'est Fanny. Et là, toutes les gyms, tout le monde m'a regardé, m'a dit, mais vous êtes pasteur. Comme il venait de découvrir que j'étais pasteur. À ma honte, parce que, peu importe, il aurait dû savoir que j'étais chrétienne, point, tu vois. Et de fil en aiguille, parle avec une, parle avec l'autre, raconte un peu ce qui m'est arrivé dans ma famille, ce que Dieu a fait. Mais encore hier même, je suis en train d'emmener un réveil, presque, dans mon gym, parce que je parle avec une femme, elle vit ça, elle vit des défis incroyables, difficiles, idées suicidaires chez son garçon, problème de toxicomanie, tout ça. Parle à une, elle a dit ouais, mais faut que tu parles avec Stéphanie. Parle à l'autre, et finalement, c'est là être un vrai disciple dans notre quotidien. Qu'est-ce que Jésus faisait, hein? Une relation avec son Père, il formait ses disciples puis il prêchait la parole. Et ça prend pas toujours un micro, une plateforme. Et le Seigneur m'a repris, il m'a dit, ta première place, c'est dans ton quotidien, à ton gym, à l'épicerie, comme tu dis, Sarah, dans ton immeuble, de voir, parce que en ce moment, c'est noir et obscur. Les gens ont besoin de nous. Sommes la lumière du monde. Le sel de la terre, bien sûr, est la lumière du monde. Et c'est ça, être un disciple, de briller dans ce monde de noirceur. Et t'as tellement raison. Quand on est toujours dans l'église, on est déconnecté. Quand on a vécu des choses dans notre famille et que j'étais obligée d'aller dans des endroits, soit à l'hôpital ou dans des centres particuliers, c'est comme ça. J'ai eu un électrochoc. Je me disais, wow, les vrais... Le vrai monde vit des vrais problèmes, des vrais défis, des angoisses. Il faut se reconnecter et être des disciples à la lumière et l'amour de Jésus en action. C'est vrai.
C'est ça. Et je crois pleinement que vraiment ce que tu vis à ton centre, en tout cas là où tu fais du sport, mais c'est tellement palpitant. Je sais pas ce que toi t'en penses.
C'est moins palpitant sur le tapis roulant, après.
mais c'est ce qu'on aime dire. Une église qui n'est pas missionnaire est une église qui est démissionnaire. Et je crois qu'un chrétien qui ne fait pas de disciples est démissionnaire. Il s'est retiré de la mission à laquelle il est appelé. Moi, je n'ai pas de plus grande joie que de pouvoir partager l'évangile à qui que ce soit autour de moi, dans la rue, n'importe où. Parce que c'est là aussi que notre foi, elle est confrontée. On peut pas savoir ce que vaut notre foi lorsqu'on prie jamais pour un malade. On peut pas savoir ce que vaut notre foi lorsque on n'ose jamais imposer les mains à un malade. Alors on va me dire, ouais, mais si ça marche pas, mais ouais, mais si tu essayes pas, tu le sauras jamais. Et c'est peut-être pour des centaines de malades que tu vas poser tes mains et que Jésus guérira un, mais c'est pas, ça t'appartient pas, encore une fois. Par contre, le vivre pleinement, c'est entrer dans une dynamique et dans une vie qui est tellement palpitante. C'est vraiment un shoot d'adrénaline dont on peut plus se passer après. Et je vous encourage tous à entrer là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de plus belle vie. C'est la plus belle des vies.
Et oui, et pas être un chrétien incognito. Tu sais, souvent, on est chrétien à l'église, mais porter sa croix, c'est aussi porter le message de Jésus. Et c'est pas populaire de se dire chrétien. Je sais pas, toi, Sandra, si partout où tu vois, c'est populaire, mais quand tu t'affiches dans la rue comme chrétien, c'est pas populaire. Mais c'est là que Jésus était pas populaire non plus. Un disciple, c'est pas toujours populaire.
Non, c'est sûr que c'est pas populaire d'être chrétien. Puis j'ai envie de dire que tout ce que vous dites, en fait, moi, ça me fait juste penser que c'est le fruit de la relation qu'on a avec Dieu, comme disait justement Aurélie. C'est, on doit creuser et on doit planter nos racines vers la, dans la source pour qu'on puisse porter du fruit, puis justement avoir cette passion-là de pouvoir parler de lui. Mais j'ai envie de dire, des fois, même en tant que chrétien, moi, ça me challenge quand j'entends ça, aussi à sonder son cœur. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas servir plusieurs maîtres à la fois, puis être un disciple, c'est être un serviteur. Mm-hmm. Et souvent, on peut aussi se tromper de maître. On peut croire qu'on est en train de suivre Jésus, puis d'être un disciple de Christ. Et en fait, des fois, j'ai envie peut-être de challenger quelqu'un, mais de prendre le temps de sonder son cœur aussi. Est-ce que les actions que je porte sont réellement, en fait, finalement, les fruits de ma relation avec Dieu? Ou est-ce que, comme tu dis aussi un peu, Aurélie, est-ce que c'est pour du m'as-tu vu, pour montrer, pour faire comme, pour me donner une attitude de chrétien, parce que oui, être un disciple, c'est pas juste d'être dans l'action en tant que telle, mais finalement, c'est parce que j'ai une relation avec Dieu, parce que le Saint-Esprit est en moi, justement, les fruits de ça, ça va être de ne pas avoir honte de parler de Christ, de pas avoir honte d'être qui je suis, de faire ce que je fais, de pas avoir honte d'aimer mon prochain, puis d'être capable d'aimer même ceux qui naturellement je serais pas tentée à aimer, mais ça fait partie des disciples. Ils reconnaîtront que vous êtes des disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres, tu l'as mentionné. Mm-hmm. Mais ça fait partie, mais on peut pas être un disciple par nos propres forces.
Ça, c'est vrai.
On a besoin de cette relation, puis on a besoin du Saint-Esprit, puis on devrait prendre le temps régulièrement de se sonder. Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, si je fais les choses pour les mauvais motifs, si c'est pas toi que je suis et que j'ai laissé un autre maître prendre ta place dans mon cœur, Seigneur, réaligne-moi et que ce soit vraiment toi qui sois le maître de ma vie.
Oui, surtout qu'il a dit dans sa parole, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et il y a cette parole qui est quand même interpellante, où n'avons-nous pas fait des choses en ton nom? Ça veut dire qu'on peut faire des choses, mais ne pas être disciple de Jésus-Christ. Et on peut faire des bonnes choses, parce que chasser des démons, tout ça, c'est quand même des bonnes choses qui sont en train d'être faites. Donc c'est pour ça que je reviens encore à ça, comme tu viens de le dire, Sandra, c'est qui me dirige? Est-ce que c'est Dieu qui me dirige? Est-ce que c'est moi qui me dirige? Est-ce que c'est le diable qui me dirige? Et il faut être honnête envers soi-même. Si tout ce que tu fais vient de toi, c'est peut-être toi qui te dirige. Et si tout ce que tu fais ne produit pas le fruit, si ça c'est pas le fruit de l'esprit de Dieu en toi, ça veut peut-être dire que c'est ça, c'est pas Dieu qui te dirige, en fait. Et il faut avoir cette honnêteté de dire, Seigneur, je reconnais que dans ma vie, il y a des choix que je fais qui viennent de moi, qui ne viennent pas de toi, mais aide-moi. Parce que je veux pas qu'au dernier jour, je sois là en train de te dire, j'ai même parlé de toi, peut-être dans la rue à quelqu'un, mais que Dieu te réponde, je ne te connais pas. Donc il y a la dimension de la connaissance qu'on ne peut pas négliger, et de cette connaissance-là, suivra tout le reste. Quand tu connais Dieu, c'est même pas toi qui fais, c'est une force qui te pousse pour dire, les amis, venez, il y a Jésus qui est là, qui existe, il fait du bien. Quand tu connais Dieu, tu veux être avec lui, tu veux être proche de lui, tu veux rester dans sa présence, tu veux prier. Là, tu vois des gens, l'amour, c'est facile de le manifester parce que tu es avec lui. Mais si on loupe cette étape-là et que on fait beaucoup de choses, d'activités, mais on risque d'être de ce côté-là du verset où on dit nous avons fait beaucoup de choses.
Et Sarah, j'ai suivi un message que tu as donné dans ton église, et tu partageais que cette histoire, en tout cas moi ça m'a vraiment interpellée et touchée et défiée, de cette histoire d'un homme qui était je crois en bas de ton immeuble ou dans ton quartier, et qui était vraiment dans un état de santé très très compliqué, et que t'es allé lui proposer ton aide plusieurs fois jusqu'à ce qu'il accepte ton aide. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter ce témoignage?
Quelques mots, ouais, bien sûr. Jean-Luc qui était notre voisin, littéralement dans un immeuble en fait en face, mais que j'ai rencontré pour la première fois sur un trottoir, puisqu'il était aussi un homme qui faisait la manche, etc. On a réalisé finalement qu'il avait un logement et qu'il était en plus de ça à côté de chez nous. Et on l'a aimé, en tout cas dès le début. Enfin, moi, je suis passionnée pour tous, et en particulier les gens comme comme Jean-Luc, et il est, au début, il est venu, il venait de temps en temps boire le thé à la maison, et voilà, très rapidement, les choses ont un peu évolué, en tout cas pour lui, dans le mauvais sens. Et c'est vrai que quand je l'ai vu un jour sur le trottoir, et il avait quelque chose qui me semblait très étrange au niveau de son visage, mais je suis passée rapidement et j'étais en voiture. Donc, j'avais demandé à Matt d'aller le voir en sortant du bureau, et ce jour-là, il avait refusé vraiment, notre aide, il voulait vraiment pas qu'on l'accompagne ni rien. Et puis à force, effectivement, d'insister, il a fini par accepter au point que à la fin, au final, il nous avait même donné les clés de chez lui pour qu'on puisse entrer, sortir, venir, puisque je c'est en rampant que je le retrouvais parfois sur le parking derrière chez moi. Et pour finir, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de cas qui soit trop désespéré, parce que jusqu'au bout, j'ai cru et j'ai dit à Matt, il faut qu'on baptise Jean-Luc. Et Jean-Luc a fait ce choix et il a demandé à ce qu'on puisse le baptiser. Si vous l'aviez vu, vous n'y auriez sûrement pas cru, puisque c'était plus que, je pense, une quarantaine de kilos qu'il avait. Il faisait plus d'1m87, il avait la taille de Matt. Et il a été baptisé, on a pu le baptiser dans sa baignoire. Il est parti sauvé, digne, puisque c'était aussi important, en tout cas pour moi, que cet homme puisse retrouver une forme de dignité. Je crois que l'amour de Christ en nous pousse à ça. Il vivait littéralement dans un taudis, donc on a fait intervenir vraiment une société de ménage. On lui a acheté un lit, on lui a acheté un nouveau matelas, on lui a remis une housse de couette, de la soupline. Je voulais que tout sente bon. Je lui ai demandé quelle était sa couleur préférée. Je savais qu'il ne vivrait plus très longtemps. Mais c'était important pour moi qu'il dorme et qu'il ferme ses yeux dans un... Et tous les jours, plusieurs fois par jour, je suis allée près de lui. Je lui ai lu des psaumes, j'ai chanté. Matt lui a écrit une chanson que j'ai pu lui faire écouter jusqu'au bout. Il a entendu, il a su, il a jamais compris pourquoi on l'aimait comme ça. Il nous a toujours dit, mais pourquoi est-ce que vous m'aimez comme ça? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez? Et jusqu'au bout, Dieu nous aura fait grâce de pouvoir vraiment être cette lumière, je le crois, auprès de sa famille ensuite, lors de ses obsèques. Et je me réjouis déjà de le retrouver, je sais, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, le deal, Jean-Luc, c'est que ce soit toi qui m'accueille aux portes avec Jésus. Et je sais qu'il y sera. Et je continuerai à vivre pour tous les Jean-Luc qui sont autour de moi.
Bravo.
C'est mon plus grand privilège, c'est mon plus grand bonheur. Et je crois que, vous savez, à l'époque, les disciples, en fait, avant d'être appelés chrétiens, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant d'être des chrétiens, en fait, c'est les suiveurs de Jésus. Ceux qui suivaient Jésus vont être appelés chrétiens par les païens. Ce sont les païens qui ont nommé les gens qui suivaient Jésus des chrétiens, ce qui veut littéralement dire des petits Christ. Et j'ai envie de nous dire à tous, en fait, c'est en étant des petits Christ que le monde voit. C'est pas en étant autre chose. Et je crois que si nous ne sommes pas dignes de représenter ce que véritablement veut dire être un chrétien, pas faire le chrétien, pas jouer le chrétien, pas raconter sur Instagram que tu es chrétien, pas être un influenceur avec plein de followers, mais que tu n'es pas capable d'aller dans une église et de faire des disciples à ton tour, alors je crois que le monde verra et que le monde sera bouleversé. Et il ne faudra pas longtemps, je le crois profondément, si chaque homme et chaque femme se saisit pleinement de ce que veut dire être un petit Christ, on est capable d'accélérer le retour de Jésus. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Dieu nous fait assez confiance pour accélérer la venue de son Fils, parce que à partir du moment où tout homme et toute femme aura entendu parler de la bonne nouvelle, il va revenir. Et il nous a choisis pour ça. Il nous a destinés pour ça. Et j'aimerais tellement que chacun qui nous regarde puisse se saisir de cette vie-là. C'est tellement simple. Par contre, ça demande de s'arrêter, de fixer le regard. Comme Pierre et Jean vont fixer leur regard sur le boiteux qui était assis aux portes, à la belle porte du temple. Vous savez, cet homme, il était là depuis 40 ans. 40 ans et tous les bons croyants, tous les bons religieux rentraient dans le temple plusieurs fois par jour et leur mettaient une pièce. Mais ça, moi, j'appelle ça l'aumône low cost du chrétien. Eux sont venus avec quelque chose d'autre. Il lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils se sont arrêtés, ils ont fixé leur regard, comme toi tu peux fixer ton regard, au nom de Jésus, et bien sûr, accompagné d'un geste, en prenant la main, comme Christ un jour nous a tendu la main. Et le miracle prend place. Cet homme va passer de la belle porte où il n'avait pas accès parce qu'il était considéré comme impur ce jour-là. Il va pouvoir franchir le seuil du temple et il va voir sa vie être transformée. C'est ce que Jésus veut faire avec chacune de vos vies. Il veut pouvoir saisir votre vie pour que vous puissiez faire entrer des hommes et des femmes impurs à cause du péché dans sa présence glorieuse parce que vous avez tout reçu en lui.
Merci beaucoup, Sarah. Et je pense que ça nous met toutes au défi de pas être cette mère morte. Et je crois que y a une porte de sortie, une porte de compassion, une porte de d'amour qui s'ouvre aussi dans nos cœurs pour pouvoir porter ce fruit, pour pouvoir amener l'amour de Jésus. Et merci d'avoir encore partagé ce témoignage avec Jean-Luc. Tu sais, la première fois que je l'ai entendu, ça m'avait déjà touché, mais de l'entendre encore là. Je trouve que c'est tellement l'évangile en fait, c'est l'évangile s'arrêter pour celui pour qui on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie, visuellement ça donne pas envie non plus, mais pourtant c'est une âme qui a été sauvée par Jésus-Christ, mais à travers un disciple, une disciple qui aime Jésus et qui aime les gens. Et je crois avec honnêteté, on a tous et toutes des Jean-Luc qui sont là autour de nous, et alors que on a un cœur déjà pour eux, mais que notre cœur de disciple puisse être assez interpellé pour qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter, de prier, de s'occuper et d'aimer de façon aussi concrète et tangible. Donc merci beaucoup Sarah.
Merci
d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis écoute, au plaisir de se rencontrer en vrai pour Aurélie et moi, parce que les deux autres c'est déjà fait.
Au plaisir en vrai, à bientôt.
Merci Sarah.
Avec grand plaisir. Écoute,
merci.
Je peux faire une dernière parenthèse. Vous savez, vous occuper de nombreux Jean-Luc, ça vous permet aussi de vivre véritablement la famille de Dieu. Parce que c'était tellement colossal. J'ai pu vraiment, avec Matt, on a eu la joie de pouvoir mettre en place et permettre à d'autres de participer à ce miracle. Et ça aussi, c'était ma plus grande joie. Faire venir un infirmier, faire venir quelqu'un. C'est ensemble, c'est vraiment ensemble. Moi, je peux rien faire par moi-même, je suis personne. Mais ensemble, on peut tout faire par la puissance de Jésus. C'était une joie d'être avec vous. Merci de tout cœur pour votre confiance.
Ben, merci.
Et vivez pour l'essentiel.
Amen. Amen. Et donc nous, on va se retrouver vendredi. On verra si Sandra dit encore. Et on se dit bye bye, à bientôt. Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.